Chapitre 10. Alain. Il s'était donné rendez-vous dans la brasserie au cinquième sous-sol du complexe Napoléon-Courte, sous la pyramide de verre du Louvre. Ils connaissaient tous les deux l'établissement, même s'il n'avait pas de signification particulière pour eux. Alain l'avait proposé et elle le soupçonnait de l'avoir choisi avec soin. Sur le plan émotionnel, c'était un terrain neutre, un endroit familier mais pas encombré de souvenirs. Il était décoré dans le style caractéristique du tournant du siècle, comptoir de granit, grande poutre noire contre les murs, miroir au sol et le genre de meubles de restaurant italien en acier sombre et soudé que l'on fabriquait au siècle précédent. Les tables étaient couvertes d'une nappe à la fine bande noire, un motif repris sur la première page des menus, les pochettes d'allumettes et les tabliers des serveurs. Elle portait le manteau de cuir qu'elle avait acheté à Bruxelles, un chemisier de lin rouge et un pantalon en coton noir, neuf. Andrea avait fait semblant de ne pas remarquer le soin qu'elle prenait à s'habiller pour le rendez-vous. Puis, elle lui avait prêté un collier de perles qui allait parfaitement avec le chemisier. Il était arrivé en avance, nota-t-elle en entrant, et avait déjà déballé ses affaires sur la table. Il arborait son écharpe préférée, celle qu'ils avaient trouvée ensemble aux puces l'année précédente, et malgré son sempiternel air débraillé, il paraissait parfaitement à l'aise. Il avait vidé le contenu de son attaché-case abîmé sur le petit carré de granit lisse. Carnet de notes à spirale, un exemplaire du dernier roman à scandale, des gauloises sans filtre, une boîte d'allumettes assortie, l'agenda relié de cuir qu'elle lui avait acheté chez Brown. « J'ai cru que tu ne viendrais pas », lui dit-il en souriant. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, une réponse irréfléchie. « Pathétique », estima-t-elle, qui masquait la terreur qu'elle éprouvait désormais, qu'elle avait laissé monter, une crainte de perdre tous ses moyens, un bout d'elle-même. Une peur de l'amour qu'elle ressentait encore. Elle s'assit sur l'autre chaise, tandis que le jeune serveur, un Espagnol en tablier rayé, arrivait pour prendre sa commande. Elle demanda un verre d'eau Vichy. « Rien d'autre ?» dit Alain. Le garçon hésita. « Non, merci. Ça fait des semaines que j'essaie de te joindre. » annonça Alain. Elle savait qu'il mentait et pourtant, comme souvent auparavant, elle se demanda s'il s'en rendait bien compte. Andrea soutenait que les hommes comme Alain racontaient tellement de salades avec une telle passion qu'ils ne faisaient plus la différence. Il s'agissait d'artistes, affirmait-elle, qui cherchaient à restructurer la réalité. Et la nouvelle Jérusalem était un bel endroit sans découvert, propriétaire mécontent et rempli de pigeons prêts à payer l'addition de la soirée. « Je n'ai pas l'impression que tu aies essayé de me joindre quand Gnas est venu avec la police. » dit-elle en espérant qu'il tressaille au moins, mais son visage puéril resta aussi calme qu'à son habitude, sous des cheveux bruns qu'il coiffait en général en arrière avec les doigts. « Ah, désolé, » s'excusa-t-il en écrasant sa gauloise. Comme elle avait fini par lui associer l'odeur du tabac brun français, Paris paraissait empli de son parfum, de son fantôme, de sa trace. J'étais persuadé qu'il ne découvrirait jamais la nature de l'œuvre. Comprends-moi bien. Quand je me suis enfin avoué que nous avions vraiment besoin de cet argent, j'ai décidé d'agir. Je savais que t'étais bien trop idéaliste. La galerie aurait fermé de toute façon. Si tout s'était déroulé comme prévu avec Gnas, nous y serions encore et tu serais heureuse. Heureuse ! Répéta-t-il en prenant une autre cigarette dans le paquet. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder fixement, comme fascinée et dégoûtée par son envie de le croire. « Tu sais, » dit-il en sortant une allumette de la boîte rouge et jaune, « j'ai déjà eu maille à partir avec la police. Quand j'étais étudiant, je militais. » Il frotta l'allumette, jeta la boîte et embrasa la cigarette. « Tu militais ?» lança-t-elle avec une brusque envie de rire. « J'ignorais qu'il y avait un parti pour les gens comme toi. Je ne vois vraiment pas comment il peut s'appeler. » « Marly, » dit-il en baissant la voix comme à chaque fois qu'il voulait indiquer qu'il était pris par l'émotion. « Tu sais forcément que j'ai fait ça pour toi, pour nous si tu veux, mais tu le sais, Marly, au plus profond de toi, que je ne pourrais jamais te faire de mal ni te mettre en danger. » Il n'y avait pas de place pour son sac à main sur la petite table encombrée et elle l'avait donc posé sur ses genoux. Elle s'aperçut alors qu'elle avait enfoncé ses ongles dans le cuir épais. « Jamais me faire mal ?» C'était bien sa voix, perdue et stupéfaite, la voix d'une enfant. Et elle se retrouva soudain libérée, sans besoin, désir ni peur, ne ressentant plus envers le beau visage face à elle que de l'écœurement, et elle resta là à regarder cet étranger avec qui elle avait couché pendant un an, dans une pièce minuscule, derrière une toute petite galerie de la rue Montconseil. Le serveur posa sa Vichy devant elle. Il dut se dire que son silence signifiait qu'elle était prête à le croire, que son absence d'expression annonçait qu'elle avait baissé la garde. « Ce que tu ne comprends pas, » il commençait souvent ses phrases ainsi, se rappela-t-elle. « C'est que les hommes comme Gnas existent d'une certaine façon pour soutenir les arts, pour nous soutenir, Marly. » Il sourit alors comme s'il riait de lui-même, un rictus entendu et guilleret qui glaçait désormais le sang de Marly. « Je dois bien reconnaître que je ne me doutais pas qu'il serait assez malin pour engager son propre expert de Cornell, même si le mien, je t'assure, était le plus connaisseur des deux. » Comment se sortir de là ? « Lève-toi, » se dit-elle, « fais demi-tour, marche calmement jusqu'à l'entrée, passe les portes, traverse l'éclat artificiel de Napoléon Court jusqu'au revêtement de marbre de la rue du Champ-Fleury, une voie du XIVe siècle autrefois réservée essentiellement, disait-on, à la prostitution. N'importe quoi, quelque chose, s'en aller tout de suite et s'éloigner de lui, marcher au hasard, se perdre dans le guide de Paris qu'elle avait parcouru lors de son arrivée en ville. « Mais tu vois, disait-il, que tout est réglé désormais. Et... » Ça s'est bien terminé. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas ? De nouveau ce sourire, mais cette fois enfantin, presque nostalgique et d'une certaine manière affreux, plus intime. Nous avons perdu la galerie, mais tu as retrouvé un boulot, Marly. Tu as un travail à accomplir. Intéressant, qui plus est. Et j'ai toutes les relations qu'il te faut, Marly. Je sais qui tu dois rencontrer pour trouver ton artiste. Mon artiste ? Elle dissimula son trouble soudain en buvant une gorgée de Vichy. Il ouvrit son attaché-case abîmé et en tira un objet plat, offrant le simple reflet d'un hologramme. Elle le prit, ravie d'avoir de quoi s'occuper les mains, et vit qu'il s'agissait d'une image de la boîte qu'on lui avait montrée dans la reconstruction de Barcelone de Virec. Des mains qui n'étaient pas celles d'Alain la tenaient, et une chevalière en métal sombre apparaissait à un doigt. On ne distinguait pas le décor, uniquement la boîte et les mains. « Alain, » dit-elle, « où as-tu trouvé ça ?» Elle leva le regard et, dans ses yeux marrons, lut un triomphe puéril. « Quelqu'un va devoir payer très cher pour le découvrir. » Il écrasa sa cigarette et se mit debout. « Excuse-moi. » Il partit en direction des toilettes. Lorsqu'il eut disparu derrière des miroirs et des poutres d'acier noir, elle lâcha l'hologramme, tendit les bras au-dessus de la table et ouvrit son attaché-case. Elle n'y trouva rien qu'un élastique bleu et des miettes de tabac. « Je peux vous apporter autre chose. Une autre Vichy, peut-être. » Le serveur se tenait debout près d'elle. Elle leva les yeux vers lui et fut soudain frappée par l'impression d'avoir déjà vu ce visage mince et sombre. « Il porte un micro, » dit-il. « Et il est armé. » J'étais le groom à Bruxelles. Donnez-lui ce qu'il veut et n'oubliez pas que l'argent n'a aucune importance pour vous. » Il prit son verre et le posa délicatement sur son plateau. Et c'est très probablement cela qui le conduira à sa perte. Lorsqu'Alain revint, il souriait. « Bien, ma chère, » dit-il en prenant sa cigarette, « passons aux choses sérieuses. » Marly lui rendit son sourire et hocha la tête.